Ce matin, je vais faire le focus, hein, une fois n'est pas coutume, sur un jeu qui n'est pas forcément de prime abord du goût de tout le monde, mais après un long dossier que j'ai pu dévorer dans le dernier Edge, hein, le magazine anglais Edge, le numéro 321, n'est-ce pas, que j'ai récupéré hier en démat sur mon iPad, je vous raconte ma vie, je vous ai traduit. Alors, les meilleurs passages, puisque le dossier est vraiment énorme, hein, l'émission aurait fait une heure, les passages qui me semblaient les plus intéressants sur ce dossier, qui traite de Starlink. Starlink, hein, le jeu d'Ubisoft Toronto, qui va essayer de relancer les jouets vidéo. Vous le savez, au dernier E3, il y a eu cette alliance absolument géniale, hein, avec Star Fox. Miyamoto était sur scène, etc. Oui, ça devient une tradition, mais moi j'ai beaucoup aimé cette séquence, comme je disais dans notre débrief, hein, avec les auditeurs de la conf Ubisoft. Donc c'est un jeu où vous mettez des maquettes de vaisseaux spatiaux sur la manette. Ils peuvent être démontés, customisés, et ça se déroule en temps réel à l'écran. Les diverses combinaisons sont reproduites instantanément dans le jeu. Et pour être très franc avec vous, je ne m'attendais pas à parler de ce jeu-là pendant vraiment de très longues minutes ce matin. Mais Edge étant un magazine de qualité, qu'est-ce que j'aimerais qu'on ait vraiment une vraie traduction française de ce magazine. Je pense que là, pour le coup, je m'abonnerai direct, mais enfin voilà, ça c'est encore autre chose. Le dossier est passionnant puisque le journaliste de Edge donc, s'est rendu à Ubisoft Toronto, a discuté avec les équipes et a pu essayer le jeu. Le dossier nous précise avant toute chose que donc après les succès des Skylanders, hein, d'Activision, de nombreux acteurs se sont lancés dans la bataille du jouet vidéo, vous vous en souvenez, mais la plupart des superstars du genre ont fermé boutique. Disney, Infinity et Lego Dimension également, eux, ont complètement de toute façon cessé leur production, tandis que la série Skylander, nous rappelle le magazine britannique, est actuellement en pause indéfinie. Y a-t-il un comeback de prévu? Ça, ce sera à voir, je ne sais pas. Bref, il s'agissait de jeux attachés à de grandes marques, mais Starlink, lui, est une licence, hein, qui part de zéro, c'est une licence originale dont Ubisoft Toronto espère donc qu'elle captivera les cœurs et l'esprit des enfants de 8 à 12 ans, mais pas seulement, également les parents. Alors donc, une toute nouvelle IP, hein, une propriété intellectuelle qui encourage l'achat de plusieurs pièces de plastique à une époque où les joueurs se méfient profondément de tout ce qui est achat supplémentaire, comme les microtransactions. Hein. Ben, tout ceci est un pari audacieux, reconnaît Edge, un pari qui pourra peut-être s'avérer payant. En tout cas, autant vous le dire, je vous spoil un petit peu la fin de ce compte-rendu. Edge a été conquis, voilà, par Starlink. Quelques infos sur la naissance du projet. Qui est vraiment assez détaillé, interview à l'appui dans ce papier. Donc Ubisoft Toronto avait à l'époque terminé le développement de son tout premier jeu, à savoir Splinter Cell Blacklist. Et le studio, alors en pleine expansion, s'est scindé pour commencer le développement de plusieurs projets. Et donc ça, à ce moment-là, nous sommes à l'été 2013. L'un de ces projets avait pour but d'explorer des concepts de gameplay innovants et l'utilisation, hein, des consoles next-gen, en tout cas elle l'était à l'époque, dans le but de créer un concept grand public. Tout ça sans obligation aucune d'aller vers tel ou tel gameplay, sans feuille de route, hein, sans impératif, bref, carte blanche, hein, comme on dit. L'idée était de brasser autant d'idées que possible avant la date limite de Noël 2013. Après quoi, l'équipe, hein, sélectionnait le favori, le projet qui leur semblait le meilleur, hein, tout simplement, pour ensuite s'envoler pour Paris et présenter le bébé, en tout cas le proto, au président Guillemot. Yves, si tu nous écoutes, spécial caisse dédiée. Ce proto, au début, donc le proto de Starlink, hein, qui ne portait pas encore ce nom-là, utilisait des Wiimotes, des Lego, divers assemblages de fils, bref, c'était un sacré beans, hein. Mais au fil des itérations, l'équipe a réussi à vraiment accoucher d'un vrai prototype de Starlink, vraiment qui fait penser au Starlink qui sortira dans quelques temps, assis sur un contrôleur de mouvement personnalisé qui ressemblait beaucoup à une version miniature d'un pistolet de visée PlayStation. Un vaisseau spatial imprimé en 3D, peint à la main et attaché avec du ruban adhésif était placé sur l'objet. Bref, tous les testeurs, en tout cas à Ubisoft Toronto, ont adoré. Et d'ailleurs, l'une des conceptrices raconte, je cite, « Nous étions tellement nerveux parce que c'était un prototype tellement maladroit qu'il s'effondrait. Nous l'avions construit en un mois parce que nous avons passé trop de temps à faire du prototypage, mais nous l'avons montré à des enfants et leurs mâchoires sont tombées et leurs yeux se sont illuminés. Il était clair que c'était le jeu à emmener à Paris, au QG et à Monsieur Guillemot. Nous étions ravis, d'ailleurs, qu'il ait eu la même réaction que les enfants. Alors, il a donné son feu vert. » Voilà pour la petite histoire. Donc, le journaliste de Edge s'attendait presque à ce que les choses autour de Starlink soient vraiment calibrées, autant visuellement que pour le gameplay, que ce soit calibré pour un public très jeune. Mais l'équipe de Toronto voulait élargir le public cible de ce type de jeux vidéo et ne pas prendre non plus les enfants pour des idiots et laisser libre cours à l'expérimentation. Donc l'un des piliers du jeu, nous dit Ubisoft Toronto, c'est le combat créatif. Et à la question qu'un joueur pourrait se poser, pourquoi voudrais-je avoir plus de pièces, Ubisoft Toronto répond, nous ne voulons pas bloquer l'accès à certaines parties du jeu, il faut avoir envie d'acheter plus de pièces parce qu'on veut construire et booster son vaisseau et avoir plus d'opportunités de gameplay. Pour l'équipe, le défi consiste, et ça c'est très important, consiste à concevoir des pièces achetables supplémentaires et qu'elles soient désirables plutôt qu'essentielles à la progression dans le jeu. En gros, l'achat de pièces supplémentaires pourra malgré tout vous faciliter la tâche, vous rendre plus puissant, vous permettre de battre certains ennemis alors ils étaient un peu plus compliqués auparavant, mais rien de bloquant en tout cas. Bon, je rappelle un petit peu comme le principe, des méchants veulent s'emparer de tout le système stellaire, mais la flotte Starlink héroïque est là et peut même créer des alliances avec d'autres factions si on leur file des coups de main. Bref, c'est une sorte de space opéra très fun, très coloré, et ça marche plutôt bien, je vous renvoie d'ailleurs aux vidéos qui ont été diffusés par Ubisoft lors de l'E3. Donc la première impression de Edge, c'est que les produits finaux qu'ils ont pu voir donc, sont extrêmement polis, ils sont super bien fichus, gros mais élégants, assez lourds dans la main mais étonnamment légers lorsqu'ils sont perchés sur une manette. Donc les personnages qui font office de pilotes se clipsent sur le support à l'aide d'un bouton pression, introduit dans le jeu par le biais d'une cinématique somptueuse, voilà, qui fait passer le truc vachement bien. D'ailleurs, les micro-temps de chargement, quand vous changez des éléments sur le vaisseau, que ce soit le pilote ou les armes, etc., tous ces chargements sont masqués par des effets visuels à l'écran très rapides qui ont tendance à impressionner énormément les enfants, et j'imagine les grands-enfants, n'est-ce pas? Bref, Edge, très convaincu, parce qu'a vraiment montré cette équipe dont l'expérience collective, il faut le rappeler, comprend des travaux sur Far Cry, Assassin's Creed et Watch Dogs. Et donc, justement, ça leur a servi à faire un monde ouvert, puisque Starlink présente un monde ouvert, effectivement, vous pourrez vous balader un petit peu partout. L'expérience de l'équipe sur des gros mondes ouverts, des triple A Ubisoft, leur a été extrêmement utile. Alors, il y a des petites idées sympathiques, comme par exemple la possibilité de scanner une pièce chez un ami pour l'essayer ensuite dans son jeu en un temps limité, c'est-à-dire que sans acheter une option, une pièce supplémentaire, vous pouvez l'essayer gratos, je crois que c'est 5 jours, il me semble, chez vous, tranquille, voilà, sur le jeu. Autre chose assez intéressante, c'est qu'il est possible d'acheter des pièces uniquement en version numérique. Donc, pas obligé du tout d'acheter physiquement le jouet, la pièce, vous pouvez l'acheter en version démat, en téléchargement direct. Alors, cette solution, à la base, a été choisie, en effet, parce que sur Switch, en version nomade, c'était la seule solution pour pouvoir continuer d'y jouer correctement. Parce qu'essayer de poser un jouet clipsé sur la Switch, je pense que c'est un petit peu compliqué. Je rappelle que bien sûr la version dockée du jeu, la version Switch, accepte bien sûr les jouets, etc. Ça, y a pas de souci. Donc là, pour eux, il s'agissait d'une flexibilité aussi pour, alors argument marketing ou pas, mais je trouve que le propos peut se tenir, pour ne pas avoir à transporter toute sa collection en voyage et avoir effectivement tous ses équipements en démat. La question est donc de savoir, se pose Edge, combien de personnes se sentiront obligées d'acheter les versions plastiques de ces accessoires. Ça n'a pas été confirmé, mais bon, Edge suppose que les pièces en version numérique seront un petit peu moins chères. Ça, j'attends de voir, ce serait d'une logique implacable, mais enfin, vous savez que la logique, parfois, beaucoup s'assoit dessus. Donc globalement, je vais vous le dire, bon, vous le savez, je suis papa d'un petit garçon de 8 ans, je pense que ça va l'éclater, voilà, concrètement, je ne serai pas parent, je ne sais pas si je me serais intéressé autant à ce jeu, mais je sais qu'il y a énormément de parents qui m'écoutent, d'après les témoignages que vous me donnez au quotidien. Coucou les enfants d'ailleurs, et je pense que ce jeu, vraiment le succès est au rendez-vous, si vraiment les promesses sur le papier sont là, ça peut être très intéressant, et ça peut amener le concept du jeu vidéo dans quelque chose d'un peu plus costaud. Voilà. Puisque je trouve que tout ce qui s'est fait avant était perfectible, si ce n'est peut-être effectivement l'Ego Dimension qui là avait un level au-dessus, et puis avec toutes les licences là qui parlaient un petit peu aux 30, quarantenaires, nostalgiques, nostalgiques, comme certains aiment le dire, c'est sûr que ça avait énormément fonctionné, mais en termes là de gameplay, je trouve qu'il y a une offre vraiment très intéressante. Donc, est-ce que ça vous intéresse? Déjà, si vous n'êtes pas parent, j'aimerais savoir si Starlink, le concept, en grand gamin que vous êtes, Est-ce que ça, déjà, ça vous titille? Et si vous êtes parent, est-ce que vous voyez acheter ça à vos enfants, sachant que vous n'avez peut-être pas encore déboursé pour Nintendo Labo, ce qui est mon cas, donc ça commence à faire beaucoup de choses à acheter. Mais je trouve le concept vraiment très très intéressant. Donc dites-moi ce que vous en pensez sur le compte Twitter, @revuedepressejv, sur le Discord, bref, tous les liens sont dans la description de cette émission. Et alors que je l'ai coupé comme un sauvageon, j'ai oublié de vous dire que le jeu sortait le 16 octobre de cette année sur PS4, Xbox One et Nintendo Switch. Bien sûr, je manque à tous mes devoirs. Veuillez accepter toutes mes confuses, mais enfin voilà, la précision est en fait. Je pense que le job a été rempli, je peux rentrer à la base.